Radio Éthique.
Écoute la planète.
Chaque jour, un tête-à-tête sur la planète, c'est l'invité de Radio Éthique.
Rareté et vulnérabilité, c'est l'équation de toutes nos sociétés, rareté énergétique et vulnérabilité au changement climatique. Nicolas Hulot est envoyé spécial du président de la République pour la planète. Il était invité du comité 21 dans le cadre d'une conférence débat intitulée « Ne cédons pas au fatalisme ». En ligne de mire, la COP 21, la prochaine conférence onusienne sur le climat en 2015. Lors de la conférence débat du comité 21, Nicolas Hulot donnait des clés à plus d'une question que nous nous posons et balayer quelques idées reçues. L'intégralité de cette conférence débat est à écouter sur le site du comité 21, mais en voici quelques extraits. Tout d'abord, être envoyé spécial pour la planète, à quoi cela sert-il?
C'est un intitulé qui fait sourire, tant la charge paraît démesurée par rapport à la largeur de mes épaules, puisque je suis envoyé spécial du président de la République pour la protection de la planète. Donc autant vous dire que, je ne vais pas dire que c'est perdu d'avance, mais en tout cas, c'est compliqué. Pourquoi est-ce que j'ai tenu d'ailleurs dans cet intitulé qui est le mot planète? D'abord parce que j'adore ce mot, et puis parce que c'est bien pour placer d'emblée que c'est un enjeu universel. Et c'est d'ailleurs toute la difficulté que je rencontre, c'est que chacun n'a pas pris conscience qu'il n'y aura que des gagnants ou des perdants. Je crois que c'est Martin Luther King qui disait « Où nous allons être capables de travailler ensemble, on va tous mourir comme des idiots. Bon, » et c'est un peu ce qui peut se passer si on ne transforme pas cette contrainte en opportunité. Moi, mon rôle, c'est un rôle d'influence. Je n'ai pas de pouvoir, je peux simplement essayer de rationaliser les choses pour essayer d'expliquer à chacun de mes interlocuteurs qu'on n'a aucun intérêt à laisser les phénomènes se développer, que ça nous coûte déjà économiquement et que, au passage, j'aurais dû commencer par ça, ça coûte humainement à des centaines de milliers de vies chaque année dans le monde et qu'il n'y a pas d'issue favorable. Mais je dois simultanément, mais c'est là aussi où tous on doit jouer un rôle, montrer que s'il y a un chemin qu'il ne faut plus prendre, il y a un chemin qu'on peut prendre. Et il faut qu'on arrive tous ensemble à dessiner un imaginaire, non pas utopique, mais qu'il se trouve qu'économiquement, technologiquement, juridiquement, il y a un certain nombre de solutions qui peuvent permettre d'embrasser et de créer même un désir. Mon rôle dans cette mission, c'est une mission principalement diplomatique. Il est de faire ce que je fais depuis un peu plus d'un an et demi que j'ai été nommé, la tournée des États, des responsables politiques, des responsables économiques, mais également des acteurs de terrain, des chercheurs, pour voir aussi identifier ce qui appartient déjà à la solution et les promesses du futur. Et donc, je rencontre à la fois des gens qui partagent notre ambition, et puis je rencontre évidemment et presque principalement ceux qui sont dans des positions parfois radicales. Les positions radicales ne sont pas des postures de principe, ce sont des positions argumentées. Il y a un certain nombre de pays du Sud, au premier rang desquels des pays d'Afrique, mais un groupe qu'on appelle le G77, qui considère que les pays industriels sont historiquement responsables de la situation climatique. Et donc, globalement, puisqu'ils en ont la responsabilité historique, ils en ont la responsabilité de la résolution. Il y a une grande défiance vis-à-vis des mécanismes onusiens. Et donc, je dois essayer, non pas d'établir la confiance que j'en ai pas la possibilité, mais de faire bien passer les messages. Deuxième problème qu'il faut régler, c'est le problème des transferts de technologie. Parce que les pays nous disent « Ok, vous nous demandez de ne pas nous développer avec du carbone ». Mais ce WAC, comment fait-on? Bon, voilà. Donc j'essaie d'identifier. Et puis, troisième problème, c'est la forme juridique de l'accord à Paris. Est-ce qu'on doit montrer un peu de souplesse sur la forme juridique? Parce que je sens la volonté, enfin, partagée d'agir, y compris dans les pays du Golfe, curieusement, de contribuer à l'effort, parce que chacun voit bien que la situation n'est pas tenable et que ça risque de créer notamment des conflits très importants. Mais mon rôle, il se limite à ça. Il sera d'autant plus facile pour moi que notre propre pays et notre propre espace géographique qui est l'Europe, sera ambitieux.
Si l'on regarde l'échiquier mondial, les pays sourds à tout effort pèsent lourd, la Russie, l'Inde, le Brésil, mais les deux poids lourds, les États-Unis et la Chine, seraient dans une attitude moins figée qu'on ne se l'imagine.
Dans les éléments positifs, les déclarations du président Obama il y a 3 jours, qui a pris un certain nombre d'objectifs à travers la voie réglementaire pour les centrales à charbon nouvelles, mais évidemment pour le parc des centrales à charbon existant. Ça, c'est quand même très important. Il faut savoir que les États-Unis, même s'il y a une espèce de posture politique, puisque quand on est chez les conservateurs, on est plutôt ambitieux sur les changements climatiques, quand on est dans le camp républicain, même si on a fait sa conversion, parce que j'ai rencontré des sénateurs républicains qui partagent en fait cette inquiétude. Mais si un sénateur républicain ose afficher son ambition climatique, il est balayé quand il y a des échéances. Mais les esprits bougent. Pourquoi ? D'abord parce que l'économie américaine est maintenant impactée par la multiplication et l'intensification des extrêmes climatiques. Et ça, je vous donne simplement un ordre de grandeur. 1980, le coût des catastrophes naturelles aux États-Unis, 1 milliard de dollars. En 2012, simplement pour l'ouragan Sandy, 40 milliards de dollars, et pour la sécheresse dans le New Jersey, 60 milliards de dollars. Et l'année dernière, on est déjà à 200 milliards de dollars. Donc ça frappe les esprits. Deuxièmement, les États-Unis ont bien compris, notamment dans l'ouest des États-Unis, qu'il y a un potentiel économique fantastique. Je peux vous dire que quand vous visitez notamment le centre de recherche fédéral sur les énergies renouvelables aux États-Unis, vous sortez de là, vous faites des petits bonds de joie, parce que vous vous dites, l'énergie du futur, elle est en marche. Et dernière chose pour les États-Unis, mais c'est important de savoir ça, ceux qui sont le plus préoccupés par les changements climatiques, ce sont les militaires. Et les rapports les plus alarmants aux États-Unis viennent du Pentagone. Et ça, évidemment, ça diffuse dans l'ensemble de la société américaine. Donc, simplement pour dire que le statu quo, à mon avis, n'est pas envisageable. Maintenant, de là à avoir un accord juridiquement contraignant ratifié par le Congrès, on en a encore éloigné, mais notamment, et c'est ce qui m'avait été dit à la fois par Al Gore quand j'étais aux États-Unis et par le sénateur White House, c'est que le président Obama, en utilisant un précédent juridique qui est de la Clean Air Act, peut, par la voix de ses agences, prendre un certain nombre d'engagements internationaux. Et côté chinois, les Chinois étaient venus à Copenhague à reculons, sous la pression internationale, donc tout ce qu'ils détestent, d'ailleurs au point qu'ils avaient envoyé un émissaire qui n'avait honnêtement aucune marge de manœuvre. Depuis Copenhague, la Chine est rentrée de plein fouet dans l'enjeu climat par la porte de la pollution. La terreur des autorités chinoises, ce sont des mouvements de masse liés à la pollution. Donc ils l'ont inscrit dans leur logiciel. Dans tous les plénums chinois, le mot civilisation écologique figure. Et je ne veux pas forcer mon optimisme, mais les Chinois, chacun le sait, quand ils ont inscrit un objectif, sont capables probablement d'y mettre les moyens. Donc eux aussi vont bouger. Donc si ces deux grands acteurs, c'est plus compliqué pour l'Inde et encore plus compliqué pour la Russie, mais si ces deux grands acteurs bougent, ça peut déverrouiller le dispositif diplomatique. Quand on a été avec Aurélien Le Chevalier à Shanghai, pour donner un exemple, quelques jours avant notre arrivée, ils avaient fermé la circulation automobile, la circulation aérienne, les écoles et une partie d'entreprises, pas simplement à cause d'un problème de santé, parce qu'évidemment c'est un problème de santé, mais simplement que les gens ne pouvaient même pas se déplacer dans la rue parce qu'ils étaient incapables de voir à plus de quelques mètres.
La société civile, elle prend des initiatives et donne son avis, mais pèse-t-elle vraiment ? Que fait la jeunesse ? Interroge l'envoyé spécial pour la planète.
Une certitude, c'est que si on abandonne l'issue de cette négociation simplement aux diplomates, aux négociateurs, et je dirais même aux politiques, même si leur responsabilité est majeure, on n'y arrivera pas. Pas non plus donner le sentiment que simplement un peu de technologie et un peu de financement vont régler tout ça. Il y a une remise en cause profonde d'un modèle qui nous a conduit là. Donc il faut faire la démonstration les uns et les autres que les solutions existent, qu'elles peuvent être développées à des échelles beaucoup plus grandes. Il faut aussi que la société civile, alors derrière ce mot, qu'est-ce qu'on met, notamment la jeunesse, pour que la jeunesse se manifeste, parce qu'elle n'a pas forcément encore bien intégré que la fenêtre de tir entre, enfin la fenêtre d'opportunité entre ce qu'on peut faire et pas faire se réduit de jour en jour, et que se conditionne là, dans les temps présents, franchement, leur mode de vie. Et donc, au prétexte qu'elle a d'autres préoccupations, au prétexte qu'elle n'est pas responsable de ces situations, elle ne peut pas, encore une fois, rester silencieuse.
C'était un sujet réalisé par Pascal Marcacci.